L'orgueil est un mal quasi universel. Larousse le définit comme une opinion trop avantageuse de soi-même. Et cette tendance dans l'esprit de l'homme est certainement la racine de beaucoup d'autres maux. L'orgueil porte en lui le ferment qui fait éclore tous les vices. Par exemple, l'envie, c'est l'orgueil ne pouvant prendre son parti des avantages d'autrui. La colère nous montre l'orgueil réagissant contre celui qui lui résiste. La jalousie naît de l'insupportable impression produite sur l'orgueil par une supériorité qui s'impose. Le mensonge lui-même n'est bien souvent que l'orgueil qui se couvre et se masque, espérant par son faux visage retenir l'estime qu'il ne mérite pas. On peut dire que l'orgueil est le père de la vaine gloire et le frère de l'égoïsme. Il se promène souvent déguisé en amour-propre. Je ne sais plus qui a dit qu'il y a sans doute plus d'amour-propre dans la jalousie que d'amour. L'homme sage de l'Ancien Testament a reconnu l'orgueil dans les regards hautains et un cœur qui s'enfle. Et il le dénonce par ces mots « Cette lampe des méchants, ce n'est que péché ». Ce qui rend l'orgueil particulièrement répréhensible, odieux et même ridicule, c'est le fait qu'il fait oublier à l'homme, aussi grand soit-il aux yeux de ses semblables, combien, en réalité, il est insignifiant, faible, vulnérable, aux yeux de son Créateur, de qui il dépend entièrement, pour son existence même. Le plus riche, le plus intelligent, le plus puissant, le plus droit des hommes, n'a rien dont il puisse se glorifier, car c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est et qu'il a ce qu'il a. Que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, disait l'apôtre Paul, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pourquoi l'orgueil est une disposition que Dieu déteste avoir en ses créatures. C'est un amour de soi enflé, infecté, immodéré, déréglé. Il semblerait, d'après certains textes bibliques, que Satan lui-même fut auparavant un ange de lumière, qui, par orgueil, a manifesté le désir de s'élever au-dessus de l'autorité divine. C'est pourquoi Dieu l'a précipité dans les abîmes, loin de sa présence. Or, tous ceux qui manifestent un esprit pareil s'apparentent, en quelque sorte, à Satan et tombent sous le même jugement. Ainsi, parmi les sept choses qui répugnent à l'Éternel, selon le livre des Proverbes, nous trouvons en tête de liste les yeux hautains. L'homme sage dit plus loin, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Parallèlement, deux écrivains dans le Nouveau Testament, Jacques et Pierre, affirment que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À cause de cette répulsion que l'orgueil humain a toujours inspirée à Dieu, il n'est pas étonnant de lire dans sa parole que les orgueilleux seront tôt ou tard réduits à rien. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, dit le proverbe. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil de l'homme l'abaisse, dit encore Salomon, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre la béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ce même principe que Jésus met en avant dans une parabole adressée aux conviés à un festin, en voyant que bon nombre d'entre eux choisissaient les premières places. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il y a plusieurs sortes d'orgueil, ou plutôt plusieurs circonstances qui peuvent provoquer un esprit d'orgueil. Il y a d'abord ce que l'on peut appeler l'orgueil de l'avoir. Car ceux qui possèdent les biens de ce monde sont souvent arrogants et dédaigneux envers les moins fortunés. Asaph, le chantre du temple dans l'Ancien Testament, en voyant les riches dans cette perspective, disait « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Puis le psalmiste entrevoit en un éclair le sort final de ces orgueilleux. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Pour prévenir cette espèce d'orgueil chez les riches, Jacques leur dit que le riche se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Paul demande à son jeune disciple Timothée qu'il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. De faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Signalons en passant que dans ce texte, comme dans toutes les autres références bibliques ayant rapport aux richesses, ce n'est pas l'argent en lui-même que Dieu condamne. Être riche n'est pas un péché. Certains le sont bien malgré eux. C'est l'attitude de l'homme vis-à-vis de l'argent que Dieu dénonce. La folie de l'homme qui donne priorité et exclusivité aux valeurs matérielles. La folie qui consiste à identifier la vie avec les richesses. C'est dans ce sens que Paul affirme que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et il n'est pas nécessaire d'être très riche pour idolâtrer le Dieu argent. Après l'orgueil de l'avoir, il y a l'orgueil du savoir, une sorte de snobisme intellectuel qui tente à se vanter de ses connaissances, de son érudition, de sa science, et à afficher une indifférence polie envers ceux qui sont moins instruits et ceux qui lui semblent trop simples. Cette espèce de vanité intellectuelle rejette facilement la révélation de Dieu dans la Bible, sous prétexte qu'elle est simpliste ou dépassée à notre époque. Ceux qui sont animés d'un tel esprit se croient trop évolués que pour croire au surnaturel ou se fier à tout ce qui n'est pas scientifiquement vérifiable. C'est à l'intention de cette catégorie d'orgueilleux que Paul adresse ce cinglant réquisitoire qui est en même temps un défi. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent », déclare-t-il. « Où est le sage? Où est l'homme instruit? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. » C'est dans ce même esprit que Jésus a remercié son Père de ce qu'il avait caché son évangile aux sages et aux intelligents, et de ce qu'il l'avait révélé aux enfants. Il y a ensuite l'orgueil du pouvoir, qui réside dans le fait de posséder certaines capacités, certains droits, certaines prérogatives sur les autres. L'Église des Corinthiens avait parmi ses membres des personnes qui se glorifiaient de posséder des dons spirituels que d'autres membres ne pouvaient pas exercer. Mais Paul leur montre que l'Assemblée est un corps spirituel où tous les membres ont pareillement besoin les uns des autres. Et n'en est-il pas de même, dans un sens, de la société en général? L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Le même apôtre écrit aux chrétiens à Rome, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Il y a enfin l'orgueil de l'être, de celui qui se croit meilleur, supérieur, plus juste, plus pieux que les autres. Jésus s'est élevé contre cet esprit qui se manifestait en son temps, particulièrement parmi les pharisiens et les scribes. C'est pour eux et pour tous ceux qui leur ressemblent qu'il raconta la parabole bien connue du pharisien et du publicain. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Et à ce point, il entreprend d'énumérer toutes ses bonnes qualités et ses bonnes œuvres, dont il tient une méticuleuse comptabilité. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, » ajoute le Seigneur, « celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Chers auditeurs, que l'orgueil qui peut se saisir de nous à tous les niveaux, nous l'avons vu, et dans presque toutes les circonstances de la vie, ne vienne pas détruire l'œuvre que Dieu veut faire en chacun de nous par sa parole et nous fermer la porte du royaume de Dieu. Souvenons-nous toujours de ces mots que Jésus prononça un jour qu'il tenait un petit enfant dans les bras. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. »